Hello, je suis Victoria et j'ai 23 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de raconter les paradoxes. Nous sommes tous des paradoxes. Notre vie, elle est paradoxale. On est sursollicité toutes les 9 secondes et en même temps, on n'a qu'une seule demande profonde, c'est d'avoir du temps pour faire les choses. On a tous envie de se, entre guillemets, je mets des guillemets, se retrouver nous-mêmes et on passe notre temps à socialiser via les écrans sur des choses certes importantes parfois, mais parfois absolument sans importance.
L'horloge interne du dormeur est déréglée, son sommeil intranquille. Des envies irrépressibles envahissent sa quiétude, les mêmes qui, en permanence, hachent ses journées, sa vie, son travail, ses vacances, ses amitiés, ses amours et ses pensées. La première de ces envies, la plus importante, la plus constante, consiste à se ruer sur ce même téléphone qui n'est jamais totalement éteint. De déclencher, d'un index fébrile, le parcours initiatique du connecté maladivement inquiet. Commencer par les messages, SMS ou e-messages, vite. Puis basculer sur Twitter, d'abord la timeline, ensuite les mentions. WhatsApp, Telegram, Messenger dans la foulée, le souffle comme retenu par l'idée d'avoir manqué ce qu'il aurait immédiatement fallu savoir. Enfin, plus lentement, Instagram et Facebook. Et terminé par les alertes d'informations et les emails. Ce tour fait, se sentir comme le boulimique qui a englouti d'un trait une part de pizza. Nullement rassasié, vaguement coupable, et puis recommencer, encore et encore. Toutes les 2 minutes, 30 fois par heure éveillée, une fois toutes les 3 heures de sommeil, 543 fois par jour, 198 000 fois par an. Ce sont les mots de Bruno Patino dans La civilisation du poisson rouge. Notre téléphone est un incroyable outil, certainement celui qui te permet d'écouter ce podcast aujourd'hui. Mais n'oublions pas que derrière les signaux numériques, il y a les échanges dans la vraie vie. Il y a les discussions avec nos grands-parents et des graines à semer dans les potagers, main dans la terre. N'oublions pas que nos vies ne se résument pas à des likes ni à des filtres. Le monde est beau aussi, de l'autre côté des écrans. Avec Bruno Patino, on parle de numérique, de réseaux sociaux et de l'importance de raconter de nouveaux récits. Bonjour Bruno Patino.
Bonjour.
Merci de m'accorder ce précieux temps dans les bureaux d'Arte. En quelques mots, vous êtes aujourd'hui président d'Arte France. Vous avez fait vos débuts en journalisme au quotidien d'Infomatin, puis vous êtes passé par Canal+, Le Monde, Télérama, directeur de Sciences Po Paris, directeur de France Culture, responsable du numérique chez France Télévisions. Bref, les médias, vous vous connaissez bien, et le numérique aussi. Et c'est ce même numérique que vous remettez en question, notamment dans vos livres La civilisation du poisson rouge, et plus récemment Tempête dans le bocal. On va y revenir, mais avant toute chose, j'aimerais que l'on parle de vous, Bruno, et notamment du petit garçon que vous étiez à 7 ans.
Non, j'ai pas beaucoup de mémoire de ça, puis j'aime pas tellement parler de ça, en fait. Donc, voilà, je pense que j'ai été quelqu'un sans histoire, et voilà, c'est tout. Je vais pas dire plus que ça.
Comment vous imaginiez la vie des grands à 18 ans?
Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, paradoxalement, j'ai jamais fait de plan. La chose que je trouvais la plus angoissante et que j'essaye de partager souvent, d'ailleurs, avec les étudiants, c'était cette impression fausse qui était la mienne que tout le monde avait déjà organisé ce qui allait venir. Vous savez, c'est que des tas de gens autour de vous ont des plans pour leur vie professionnelle, leur vie personnelle, leur vie en général ou la vie en général. Et j'étais très désemparé par le fait de n'avoir aucun plan et de non pas me laisser porter, parce que ça veut pas dire du tout qu'on n'est pas actif. J'ai toujours été assez actif et toujours, en tout cas, à 18 ans, déjà assez travailleur, mais en tout cas sans aucun plan déterminé. Et en fait, avec le temps, en tout cas ce que j'essaye souvent de partager avec les étudiants, c'est que pratiquement personne n'a de plan. Ceux qui disent qu'ils ont des plans en général se le disent pour se rassurer, et ceux qui vous disent que tout le monde a un plan n'en avaient pour eux-mêmes sans doute pas. En fait, ce qui fait vraiment l'intérêt de la vie professionnelle et de la vie personnelle, c'est l'inattendu que ça amène dans votre parcours. Donc c'est les rencontres que vous n'aviez pas prévu de faire, c'est même les métiers que vous n'aviez pas prévu de faire. Moi, j'avais à un moment donné, de fil en aiguille, et vraiment par hasard, je me suis retrouvé à faire un premier métier où je travaillais pour l'Organisation des Nations Unies. Et puis, j'ai rencontré un autre métier totalement par hasard, qui était le métier de journaliste. Et de la même façon qu'il peut y avoir, j'imagine, des coups de foudre personnels, il peut y avoir aussi des coups de foudre professionnels. J'ai démarré ma vie, si j'ose dire, dans les médias, en tant que journaliste pour Le Monde au Chili, où j'étais en poste pour les Nations Unies. Et là, j'ai rencontré tout d'un coup un métier auquel j'avais pas songé, donc une vie à laquelle j'avais pas songé non plus. Et je m'y suis jeté à corps perdu, vraiment avec passion et intérêt. Et je crois, si vous voulez, que encore une fois, bien se préparer à la vie professionnelle ou à la vie personnelle, c'est juste être attentif aux rencontres que l'on peut faire.
Donc vous diriez que le journalisme est venu à vous par hasard ?
Alors après, il y a des gens qui vous diront il n'y a pas de hasard oui. ou pas, mais vu de l'extérieur, en tout cas oui, c'est une rencontre. Hein, c'est une rencontre avec un journaliste en poste à Santiago qui s'en va, il faut un intérim, il ne sait pas vers qui s'adresser pour faire cet intérim. Et puis de fil en aiguille, et pourquoi pas toi ? Et c'est à ce moment-là qu'il faut dire, ben c'est vrai, pourquoi pas moi ? Et après, faut apprendre. Ça vient pas tout seul, donc il faut apprendre à le faire. Mais disons que ça s'est produit grâce à une rencontre. Et en fait, c'est une lapalissade de dire que la vie personnelle, c'est une suite de rencontres en réalité. Mais je pense que la vie professionnelle aussi, c'est la rencontre avec des gens, des métiers, des sujets, des intérêts. Et à un moment donné, moi, je pense que ça fait partie de la richesse de la vie professionnelle que d'être attentif aux rencontres, et parfois pour les plus jeunes d'ailleurs, de tâtonner quelques mois, quelques années avant finalement que les pixels de ce que l'on est professionnellement finissent par devenir plus nets. Au départ, l'image est floue forcément.
Oui. Et justement, de ne pas avoir de plan trop précis sur son avenir, ça laisse la place et l'ouverture aux opportunités, et ça nous permet peut-être de les voir de façon plus claire.
C'est sans doute une question de caractère. Il y a peut-être le fait de ne pas être trop organisé ou trop planifié dans ce que l'on veut faire, peut-être que c'est une source de stress. C'est souvent une source de stress pour l'entourage. Mais en ce qui me concerne, modestement, si on parle de ma propre expérience, c'est ce côté non précis des plans qui m'a permis d'avoir une vie professionnelle que j'ai adorée et que j'adore avoir, quoi.
L'imprévisible de la vie. Comment vous décririez les nouvelles générations ?
Ce qu'elle a de spécifique, sans doute, par rapport à celle d'avant, c'est qu'elle change. Je pense que toutes les générations ne changent pas un changement générationnel n'implique pas forcément un changement de grille de lecture sur le monde. Et quand je dis de grille de lecture sur le monde, c'est-à-dire des concepts, des paramètres ou des catégories que vous utilisez pour voir le monde. Et je pense que ça, c'est toutes les deux, toutes les trois, toutes les quatre générations que se produit ce changement de paradigme, ce changement de lunettes, si vous voulez, qui fait que on voit le monde au travers de concepts ou de sujets absolument différents par rapport à, non pas la génération précédente, mais on va dire le bloc de génération précédente. Je pense que les générations actuelles, les jeunes générations actuelles, marquent ce changement de paradigme de façon très importante. Moi, je trouve ça passionnant. Dans mon métier, en tout cas, je trouve que c'est vraiment une source d'intérêt majeur. Je fais pas du tout partie des gens qui disent « Oh là là, il y a... » Je suis pas du tout dans la caricature ni de l'ancienne grille de lecture qui serait forcément par essence obsolète, ni de la nouvelle qui serait soit formidable, soit épouvantable. C'est très intéressant à la fois de comprendre ce changement de paradigme, de voir qu'à mon avis il est là pour longtemps, et de ne pas se laisser piéger par ce que j'appelle l'écume de la radicalité. Évidemment, toute nouvelle génération, et moi-même quand j'étais plus jeune, on a une affirmation à la fois de sa propre identité et sans doute des propres idées que l'on porte par un degré de radicalité. Après, on reste radical ou on reste pas radical, mais évidemment, quand on essaye d'imprimer un nouveau paradigme, on le fait sans doute toujours de façon assez radicale, mais au-delà de cette écume-là, de cette radicalité-là, je trouve très très intéressant on va dire à travers une grille, à côté d'une grille très traditionnelle qui pouvait être celle de ma génération, c'est-à-dire on va dire culturel ou social, on va dire ça comme ça, où les grands paradigmes étaient politiques, culturels et sociaux sur des thèmes assez classiques. Je vois que la nouvelle génération porte des thèmes, on l'a dit mille fois, de la place du vivant, pas seulement le réchauffement climatique, la place du vivant, donc l'écosystème du vivant, quelle est la place, j'allais dire, de l'humain vivant par rapport aux autres êtres vivants, et donc du coup du lien entre l'individu, l'identité, le genre, qui détermine quoi, quelle liberté a-t-on par rapport à ça, et on va dire de mécanismes de solidarité. Ce qui me fascine au sens positif du terme, c'est que je suis toujours très très interdit quand j'entends parler de la nouvelle génération comme étant pas universaliste, parce que finalement elle est presque plus que la nôtre, puisqu'elle englobe, j'allais dire, dans son attention pas uniquement l'être humain mais l'écosystème vivant et autres, donc c'est, moi ça me semble très intéressant. En tout cas, je vois ce changement de paradigme, et à mon petit niveau, en tout cas dans une chaîne comme celle que je dirige, Arte, on essaye de faire dialoguer ces deux paradigmes, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez des lunettes différentes sur le monde que vous n'habitez pas le même monde déjà. Or, on habite tous le même monde, et d'ailleurs, et que vous ne pouvez pas vous mobiliser pour des choses communes.
La capacité de concentration de cette génération est des 9 secondes. Comment vous l'expliquez ?
Non, ça c'est une image. Enfin, c'est une image. Dans mon livre sur le poisson rouge, évidemment, je pars d'une anecdote. Dans un séminaire qui était organisé par YouTube, où un ingénieur de YouTube, d'ailleurs, parle de cette légende ou pas du temps d'attention du poisson rouge qui serait de 8 secondes et du temps d'attention des gens connectés qui serait de 9. Moi, ce qui m'intéressait dans cette anecdote, au-delà du fait métaphorique, c'est, et ce que j'écris d'ailleurs dans le premier chapitre, c'est la réception différenciée qu'il y a par rapport à cette anecdote. Qu'elle soit juste ou fausse, j'en sais rien. Je suis pas du tout un spécialiste des poissons. J'ai reçu du courrier de gens qui disaient, mais vous comprenez pas, les poissons rouges sont pas comme ça. J'ai jamais prétendu. Je connais un peu le numérique. Les poissons rouges, j'y connais pas grand chose. Ce qui m'intéressait dans cette anecdote, pour démarrer le livre, c'était la réception différenciée par rapport à cette chose-là. C'est-à-dire que les gens dans l'assistance disaient, mon Dieu, on n'a plus de temps, en fait, pour j'allais dire, se donner du temps de réflexion, d'imagination, de tout ce que vous voulez, de rêve, de prière, de tout ce que vous voulez. Et les gens de YouTube, que j'aime beaucoup d'ailleurs, se disaient, c'est notre défi, il faut absolument qu'on arrive à solliciter les gens toutes les 9 secondes, parce que sinon ils vont passer à autre chose. Et c'est cette différence-là qui m'intéressait. C'était, on est dans un monde aujourd'hui où il y a une demande très profonde, et elle n'est pas générationnelle, elle est de l'ensemble de nous tous, pour avoir plus de temps. Et en même temps, on a tous, et pas seulement la nouvelle génération, des comportements, moi le premier, hein, avec mon portable, on utilise tous des outils dont le modèle économique pousse à nous sursolliciter en permanence. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que je suis pas du tout technophobe, je suis plutôt technophile, j'adore le numérique. Je crois pas du tout qu'il y ait une génération rendue bête par les écrans, absolument pas. Je pense en revanche, que l'on vit tous ce paradoxe particulier d'être en demande profonde de temps, qui est devenue la denrée la plus rare, et d'utiliser tous des outils où, pour des raisons économiques, on nous sursollicite de façon croissante. Je raconte toujours une anecdote, mais je vais vous la raconter aujourd'hui, parce que les gens rient toujours quand je la raconte, parce qu'ils ont peine à le croire. Je fais du numérique depuis 22 ans, 23 ans. J'ai, avec les équipes du Monde, on a développé lemonde.fr, ça fait plus de 20 ans. Et puis j'en ai fait après. Mais je me souviens très très bien, au début, alors il n'y avait pas les smartphones avant 2006, on a peine à le croire, mais il y avait des téléphones qui pouvaient se connecter au réseau avec le WAP, enfin avec des trucs bizarres. On a tous oublié cette technologie-là, ça nous paraît naturel aujourd'hui d'avoir un smartphone qui est connecté en permanence, mais ça ne l'était pas du tout avant 2006. Bref, quand arrive la technique, la technologie de l'alerte, chose qui nous paraît naturelle aujourd'hui. Je me souviens très bien du prestataire qui vient nous technique, qui vient nous présenter, on va dire, voilà, vous êtes le monde, vous allez désormais avoir la capacité d'alerter vos internautes qui se seront inscrits d'abord par SMS ou texte. Et je me souviens très très bien de ce que nous dit la personne. Elle nous dit, s'il vous plaît, pas plus d'une alerte par semaine. Parce que sinon, les gens se sentiront agressés, envahis dans leur espace intime ou privé, et donc ils décrocheront. Et il allait jusqu'à dire, ce prestataire, et en plus de ça, mettez-vous d'accord avec vos collègues, les autres journaux, les autres médias, pour que ça soit en gros chacun votre tour. Parce que, encore une fois, quand on dit une alerte par semaine, c'est une alerte par semaine pour tout le monde. Aujourd'hui, en moyenne, voilà, c'est ça, on en reçoit 46 par jour. Donc, si vous voulez, on est rentré dans quelque chose de totalement différent. On s'est accoutumé à être sursollicité en permanence. Certains disent hameçonné. En anglais, on dit brain hacké, donc détourné de notre cerveau. Donc, encore une fois, c'est pas la technologie qui produit ça. C'est même pas une génération qui serait plus stupide qu'une autre à cause des écrans. C'est à aucun moment je n'ai écrit ça, parce qu'à aucun moment je ne l'ai pensé. C'est juste le paradoxe de nos vies aujourd'hui que j'essaye d'expliquer.
Dans une étude du Journal of Social and Clinical Psychology, il évalue à 30 minutes le temps maximum d'exposition aux réseaux sociaux et aux écrans au-delà duquel apparaît une menace pour la santé mentale. Et dans le même temps, dans votre dernier livre « Tempête dans le bocal », vous dites « Sortir du bocal, ne plus en être, c'est ne plus exister, c'est être un peu mort, et y rester, c'est être un peu absorbé ». Alors aujourd'hui, ne pas dépasser ces fameuses 30 minutes, c'est très compliqué. Comment on y reste sans en être absorbé sur ces écrans ?
Mais c'est toute la question qui est la nôtre, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. Je parlais du paradoxe tout à l'heure, du fait de vouloir du temps et en même temps d'être sursollicité. Je suis beaucoup plus âgé que vous, donc j'ai vécu la majeure partie de ma vie sans que l'Internet existe. Hein. Et donc, comme tous les gens de mon âge, je suis incroyablement bien placé pour savoir tout ce que ça a apporté. Et c'est vertigineux.
Bien sûr.
Et on s'en rend difficilement compte, c'est-à-dire que même quand on a la mémoire de comment on vivait sans Google, sans être capable tout de suite d'être en communication avec la Terre entière dans le moment donné, d'avoir toute information disponible immédiatement, je vous parle pas de tas de petits détails, mais parce que j'adore ça, si vous voulez, c'est-à-dire que moi, j'ai passé des heures et des heures, quand j'étais plus jeune, à essayer d'identifier les titres de musique que j'avais écoutés à la radio. Parfois, j'appelais les radios. C'était dingue. Aujourd'hui, évidemment, Shazam ou d'autres vous permettent de faire ça immédiatement. Donc, la disponibilité de toute l'information, toute la culture, du savoir, de façon immédiate, la capacité de les identifier, de les partager, cette socialisation qui est la nôtre, elle est réelle. Et donc, si vous voulez dire qu'à un moment donné, on va revenir en arrière, c'est illusoire à deux niveaux. Illusoire au premier niveau, qui serait un niveau, j'allais dire, historique et politique. Oui, bien sûr, on est passé de la société industrielle à la société des données, ou société numérique, ou comment on voudra l'appeler comme on veut l'appeler, société en réseau, mais moi, je pense que c'est plutôt la société de la data, et on reviendra pas en arrière. Je veux dire, il n'y a pas de marche arrière pour l'histoire du monde, de la même façon que ceux qui ont essayé de désindustrialiser n'ont jamais réussi à le faire, même quand les projets de désindustrialisation s'approchaient d'une forme de totalitarisme, ou à l'inverse d'une forme d'idéalisme, aucun d'entre eux n'a jamais fonctionné. Donc, d'un point de vue historique, ça serait mensonger ou illusoire de se dire, bon, on va revenir en arrière sur ça. La deuxième chose, vraiment, c'est de dire que on n'a pas envie de revenir en arrière, en plus. Si vous voulez, ça a apporté une vie commune, un rapport au savoir, et petit à petit, en fait, si on fait un peu de philosophie politique, on est passé de la masse à la multitude, donc dans la gestion même des individus, des rapports sociaux, des rapports humains, ça a modifié énormément de choses. Dans le circuit de l'information, il y a des tas de choses qui sont devenues circulaires au lieu d'être linéaires, et on voit bien que ça s'accompagne d'une circularité de beaucoup de choses, petit à petit. C'est-à-dire que les utopies numériques du départ, elles sont pas entièrement mortes. L'économie du partage, l'intelligence collective, la circularité des choses. Et donc, on a aujourd'hui une machine, enfin, en tout cas, le premier, c'était de dire attention, la machine a pris le pouvoir sur nous. Et quand je dis la machine, c'est la machine et son modèle économique associé, parce que c'est pas la technologie qui a pris, je veux dire, la traçabilité permanente de tous vos comportements, de tous les miens aussi, hein, de toutes vos données identitaires, de toutes les miennes, etc. Ça, c'est pas la technologie le rend possible. Mais ce qui la rend, j'allais dire, dominante, c'est le modèle économique autour de la commercialisation directe ou indirecte de vos données et des miennes. Le numérique rend évidemment, met en avant l'espace ou la force de l'espace du calcul, mais ce qui le maximise, comme on dit, c'est le modèle économique. Donc pour être simple, si vous voulez, le choix, moi je crois beaucoup à la liberté humaine, c'est-à-dire je pense qu'on est dans le moment où on peut déterminer à quoi va ressembler notre univers numérique. Je pense pas qu'il y ait, comme on dit, de déterminisme. Je fais pas partie des gens qui disent ça nous amène mécaniquement dans la société de la surveillance permanente, totale, dans la dystopie finale où on ne serait tous que des parts d'être calculées en permanence et surveillées en permanence et rendues prévisibles par l'équation. Je pense que entre la surveillance et la traçabilité, il y a déjà une énorme marge de manœuvre politique qui existe, et la traçabilité universelle et la traçabilité anonymisée et intermittente, là aussi vous avez des parts. Donc en fait, ce dont j'essaie de parler dans Tempête dans le bocal, c'est vraiment de tout ça, c'est tout ce qui est à l'œuvre en ce moment pour faire de notre existence numérique des existences un peu plus pacifiées ou un peu plus conformes à l'utopie du départ.
Et alors, bon, vous n'êtes pas visionnaire, mais vous avez quand même ce privilège de pouvoir échanger avec des personnes comme Mark Zuckerberg. Je sais que vous l'avez déjà rencontré. Et vous êtes très alerte sur tous ces enjeux-là. Donc, comment vous imaginez la place qu'aura le numérique, justement, demain dans nos sociétés? Est-ce qu'elle sera encore plus omniprésente qu'aujourd'hui? Est-ce qu'on apprendra plus à se servir de ces outils-là?
Je pense que la société, elle bascule vraiment. Enfin, je veux dire, il y a la civilisation industrielle, on arrive dans la civilisation de la data et de la donnée, ça c'est clair. La grande fracture politique, en tout cas ce qui va déterminer nos destins, sans faire de l'emphase, et ce qu'on peut prévoir, c'est jusqu'à quel point on va être capable de limiter le domaine du calcul. Voilà, jusqu'à quel point, à quel moment les individus, les collectivités sont-elles maîtres ou maîtresses de l'extension ou la limitation du domaine du calcul. Et donc, si vous voulez, je crois pas qu'il y a d'automatisme dans la vie numérique qui arrive aujourd'hui. Je pense que ça va devenir un vrai débat politique. C'est-à-dire que si je suis dans un premier temps là, alors c'est un peu complexe, mais on peut essayer de le simplifier sur trois niveaux. Le premier niveau, c'est de dire, voilà, jusqu'à quel point y a-t-il des lieux ou des moments où le calcul n'a pas lieu? Voilà. Est-ce qu'à l'école, c'est le calcul permanent dans les données permanentes ou pas? Est-ce qu'en famille, c'est la déconnexion un peu ou la connexion permanente? Est-ce qu'il y a des lieux ou des endroits, donc des espaces ou des moments préservés? Préservés de la connexion et préservés du calcul. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau est un niveau plus complexe, mais tout aussi important dans l'univers numérique, c'est de savoir si cet univers reste un bien, alors on va simplifier, un bien commun, ou si il donne lieu à des mécanismes d'appropriation et de centralisation. Ce qui s'est passé, et c'est pour ça que j'aime beaucoup raconter les histoires de Mark Zuckerberg ou d'autres patrons du numérique, c'est qu'en fait, d'un moment utopique, on est passé à un moment de très forte centralisation qui s'est traduit par une appropriation. Et est-ce que cette appropriation, elle est entre guillemets pardon d'être un peu complexe, juste dans les mains de quelques-uns, dans ce cas-là, voilà, ces grandes sociétés qui dominent et qui, ou est-ce que, au contraire, on est dans une multiplicité de parcelles avec des barrières entre les unes et les autres. L'internet du début, qui existe toujours un peu comme ça, c'est plein d'internet mis bout à bout, mais pour former, si j'ose dire, un seul pays ou un seul univers dans lequel on peut se mouvoir librement. L'internet 2.0, c'est qu'on a rajouté sur cette structure, donc horizontale, universelle, et des endroits qui petit à petit ont bâti des murs et vous retiennent dans des modèles. Facebook en est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres écosystèmes. Ce qui va arriver ou pas sur le métaverse, en tout cas une des questions qui m'intéresse sur le métaverse, c'est moins de savoir si ça va avoir lieu totalement, si vous allez travailler ou rencontrer, aller chez le médecin, aller au concert dans un univers virtuel via votre avatar. Si le prochain podcast qu'on fera, vous et moi, ça sera pas vous et moi dans le même bureau, mais mon avatar face à votre avatar et qui se parleront, ça c'est un peu intéressant. Mais ce qui est très intéressant, en tout cas fondamentalement, c'est de savoir si le métaverse sera la production d'une seule ou deux entreprises qui contrôleront désormais qui a le droit d'en être, qui a le droit, qui n'a pas le droit d'en être et qui paye pour en être, et quel est le niveau de péage où vous paierez. Si au contraire, ça sera un métaverse, comme on dit, interopérable, qui sera opéré par plein de gens, mais sur des normes communes ou des protocoles communs qui permettront une certaine horizontalité, ou au contraire, si ça sera un lieu multifragmenté, il y aura, comme il y a aujourd'hui d'ailleurs, je ne sais pas combien de milliers de métaverses qui communiqueront pas entre eux. Ça a l'air technique, hein. Mais ça répond à la question du monde numérique qui sera le nôtre. Moi, je reste porteur de l'utopie de départ, si vous voulez, c'est-à-dire un lieu plutôt commun, qui n'appartient à personne, pour être clair, ou qui est la propriété de tous, que personne ne devrait pouvoir s'approprier. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire, on peut pas avoir une développer sa propre activité économique sur l'internet, mais qu'en tout cas c'est un lieu qui n'appartient à personne et dans lequel tout le monde peut à un moment donné interagir. Ce qui a été complexe, c'est que ce lieu-là, il ne peut pas rester non plus sans règles. On a vu ce que ça donnait quand ça restait sans règles, c'est-à-dire que appropriation, centralisation et petit à petit polarisation.
Vous parliez de déconnexion. Et pour cause, vous terminez votre livre « La civilisation du poisson rouge » en écrivant, je cite, « Une nouvelle sagesse, un nouvel apprentissage de la liberté se profile. La fracture numérique existe encore, bien sûr. L'inégalité qui vient est tout autre, cependant. Il s'agira d'avoir non plus accès à la connexion, mais à la déconnexion. Accès non pas à la musique, mais au silence. Non à la conversation, mais à la méditation. Non à l'information immédiate, mais à la réflexion déployée. » Est-ce que la méditation prendra plus de place dans nos vies demain ?
En tout cas, je suis plutôt d'accord avec ce que j'ai écrit, donc c'est rassurant. Je le crois de plus en plus, et je termine le nouveau livre « Tempête dans le bocal » en utilisant cette image de simplement marcher les mains dans les poches, c'est-à-dire plus avec la main encombrée par son smartphone et en le regardant, et en regardant plutôt vers le haut, vers le ciel, plutôt qu'en regardant vers son écran. En tout cas, je ne peux pas m'empêcher, pour répondre à votre question, de constater que il n'y a jamais eu autant de demandes de méditation dans l'ensemble de nos sociétés depuis que nous avons été hyper connectés. Et que donc, il n'y a peut-être pas de causalité, mais en tout cas, il y a une corrélation. Et la corrélation, elle est extrêmement forte. Et je constate qu'il y a quand même, parce que en dehors de toutes les politiques collectives qu'on peut évoquer, il y a quand même cette démarche individuelle ou au niveau du cercle privé qui a lieu, qui est de dire « Waouh, essayons de contrôler à un moment donné notre relation à l'espace ou au temps. » Donc moi, je connais pas beaucoup la méditation, mais je constate effectivement que ça progresse. Je raconte dans « Tempête dans le bocal » d'ailleurs que même l'ancien désormais patron de Twitter, Jack Dorsey, fait toujours d'ailleurs des stages de méditation assez extrêmes. Exactement, voilà. Je crois qu'il l'a fait 3 ou 4 fois. Oui. Et c'est un parcours très très très
Il disait que c'était une des choses exigeant. Les plus difficiles qu'il ait eu
exactement.
À faire dans sa vie.
Et je trouvais paradoxal que et si je le raconte, c'est pas parce que sa vie privée m'intéresse. En même temps, elle est pas très privée puisqu'il en a parlé lui-même. Donc, il s'agit pas ici. Mais ce qui m'intéressait, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de raconter les paradoxes. Nous sommes tous des paradoxes. Notre vie, elle est paradoxale. On est sursollicité toutes les 9 secondes et en même temps, on n'a qu'une seule demande profonde, c'est d'avoir du temps pour faire les choses. On a tous envie de se, entre guillemets, je mets des guillemets, se retrouver nous-mêmes et on passe notre temps à socialiser via les écrans sur des choses certes importantes parfois, mais parfois absolument sans importance.
Est-ce que vous, Bruno Patineau, vous prenez ce temps-là pour vous retrouver vous-même?
Bah, j'essaye en tout cas, mais moi je suis pas un adepte de, enfin je connais pas les techniques de méditation. Donc après chacun a sa méthode, enfin, comme moi peuvent nager ou faire un instrument de musique ou autre, mais en tout cas je trouve que cette demande profonde d'être à un moment donné, quand je dis en déconnexion, c'est pas seulement technologiquement parlant, c'est-à-dire un moment en maîtrise de son espace et de son temps. Je pense que c'est une demande d'autant plus importante qu'on sent bien qu'en permanence notre espace et notre temps sont l'objet de sollicitations chaque fois croissantes.
Qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre dans vos cahiers d'école et que vous n'avez pas vu ou lu
aujourd'hui? Parce que je passe mon temps en fait depuis que je suis sorti de l'école à essayer d'apprendre des choses que j'ai pas appris à l'école. Donc moi j'aime toujours.
Qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre à notamment 18 ans?
J'en sais rien. Je crois d'abord que plus l'âge avance, plus vous êtes capable, comme le disait Steve Jobs, de connecter les points de toutes les expériences de votre vie, et qu'en fin de compte, c'est pas du tout que votre tout ce que vous avez appris prend un sens tout d'un coup unique, comme une révélation cachée, mais que vous êtes en capacité, vous, en vieillissant, de relier tout ce que vous, voilà, de relier, de donner un sens à tout ce que vous avez appris. Donc, c'est dans ce sens-là que je connecte les points. Donc,
et vous vous rendez compte que tout s'emboîte parfaitement, alors qu'avant que vous ayez ce recul-là, peut-être que vous ne compreniez pas bien.
Que j'arrive à faire emboîter les choses, oui. Ce qui est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une prédétermination, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de révélation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un plan caché d'une tierce personne ou d'une tierce force, mais qu'à la fin, si vous voulez, je pense que le temps qui passe vous aide à emboîter et à faire le lien entre tout ce que vous avez appris et vécu. Donc, oui, bien sûr, il y a des tas de choses que j'aurais aimé apprendre, mais en même temps, d'abord, un, il n'est pas trop tard. Deux, malgré tout, moi, je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est le livre que vous prenez, et qui vous amène quelque chose et vous y attendiez pas, quoi. C'est-à-dire, ça peut être de la littérature ou un essai. Tout d'un coup, ça va vous emmener dans un tout nouveau champ que vous n'aviez pas du tout prévu d'explorer ou même d'aborder, et ça vous amène une capacité à modifier votre regard sur les choses. Donc non, j'ai pas de deuil ou de regret sur j'aurais dû apprendre le chinois à l'âge de 18 ans peut-être, ma vie aurait été autre, mais j'ai pas appris le chinois et puis c'est pas très grave. Peut-être qu'un jour je l'apprendrai, mais non, je n'ai pas l'idée du rendez-vous manqué avec quelque chose que j'aurais dû apprendre à un moment donné. Mais comme on dit, il y a des choses que je sais, il y a beaucoup de choses que j'ignore, et il y a beaucoup de choses que j'ignore ignorées. Et je trouve que les plus belles rencontres intellectuelles ou autres que vous pouvez faire dans votre vie, c'est pas quand vous apprenez des choses que vous ignoriez, mais quand vous appreniez des choses que vous ignoriez. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire.
Qu'est-ce que c'est pour vous réussir sa vie? C'est un mot qu'on entend beaucoup. Mais qu'on a parfois du mal à définir.
Non, moi, je suis pas là-dedans. Parce que d'abord, au moment où elle s'achève, vous êtes pas en capacité de faire le bilan. Et puis, la vie, c'est à la fois, comme je vous l'ai dit, une suite d'anecdotes, une suite de rencontres. Je crois pas du tout à... c'est pas un exercice comptable, quoi. Donc, vous pouvez pas, à la fin de votre vie, regarder si... la ligne du bas, elle est positive ou négative. Je suis bien incapable de faire ça, donc non, je ne sais pas.
Qu'est-ce qui vous rend le plus profondément heureux dans la vie?
Ça non plus, je sais pas répondre à ça. Non, mais plein de choses, mais pas, il y a pas une chose, si vous voulez. J'ai pas de. Après, je vais vous dire des choses qui tombent sous le sens et qui tiennent à vos proches ou autres. Mais je pense que non, je découpe pas comme ça. Je suis pas du tout comme ça. Mm. Je suis incapable de répondre à toutes ces questions. Et non pas parce que je veux pas, mais parce que c'est pas comme ça que je vois les choses. Mmh. Quoi. C'est-à-dire que on peut pas découper la vie, on peut pas se dire tiens ça de la même façon qu'un plat de cuisine vous le préféreriez à un autre et vous diriez la prochaine fois. Je pense que je constate que qu'évidemment il y a ce que la vie vous amène et quelquefois il y a des gens pour qui elle était épouvantablement dure, d'autres pour qui elle est plus légère et vous pouvez espérer que elle ne sera pas trop dure à votre endroit. Et moi, pour le moment, je dois être redevable à je ne sais qui ou je ne sais quoi qu'elle n'a pas été trop dure, loin s'en faut. Et puis il y a aussi votre rapport à l'existence et aux autres. Et effectivement, on voit bien qu'il y a des êtres humains qui ont eu une capacité j'allais dire d'approche de la vie qui était extraordinaire et d'autres au contraire qui n'ont pas cette chance, et moi là aussi je me situe entre les deux, donc voilà, c'est assez moyen en fait.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans le journalisme? Qu'est-ce qui vous a séduit au moment où vous avez découvert cet univers? L'importance de raconter des récits?
Exactement, raconter des choses vraies. C'est exactement ça. Je peux pas dire mieux que ça. C'est-à-dire que vraiment, c'était la réponse que j'allais vous faire. Mmh. Ce qui m'a fasciné, c'est qu'on pouvait raconter ce qui se passait.
En quoi ça aide à faire évoluer une société?
Ça, j'en sais rien. Mais si, je le sais. Enfin, il y a la théorie et la pratique. Ce qui m'a plu, c'est ça. Ce qui me plaît toujours, c'est raconter, c'est transmettre des récits. Mmh. Parce que je pense que les récits qu'on nous transmet nous aident à nous positionner dans plein de choses, dans le monde, dans le rapport aux autres, dans le rapport à l'existence, dans toutes les questions que vous posiez sur la vie, le bonheur ou autre, et auxquelles je suis incapable de répondre, mais puis c'est pas mon rôle, mais si vous voulez, oui, transmettre des récits, ça fait sens, et l'humanité, elle s'est construite par les récits qu'elle transmet. Et finalement, on ne considère comme homme ou femme, hein, mais être humain, je voulais dire, que des gens qui ont été en capacité à un moment donné d'avoir des récits. Donc que ce soit des peintures rupestres qu'on a du mal à comprendre nous aujourd'hui, mais dont on sent bien qu'ils portaient un récit, que ce soit évidemment les récits transmis de façon orale ou les premiers récits écrits, on voit bien que ce qui fait de nous, ce qui fait notre singularité, c'est cette capacité à porter des récits, à les transmettre. Donc oui, ça m'a intéressé, ça m'intéresse. C'est toujours mon métier, même si aujourd'hui je le fais en participant à l'activité d'une chaîne qui est une chaîne de récits. Et donc oui, ça, c'est ce qui m'a intéressé. Et maintenant, à quoi ça sert, comme vous le disiez? Moi, je fais partie, je suis très vieux jeu, mais dans la... Si je sursimplifie un peu les théories sur le journalisme, sur l'information en théorie, elle a le récit informatif, il vous transforme, nous transforme. Vous avez quelque chose qui va vers le public et il transforme ce public en citoyen. Et ça, c'est pas rien. Et si j'y crois vraiment très fortement encore, c'est que je pense que nous avons besoin d'être citoyens. Citoyens de France et d'Allemagne pour Arte, citoyens européens, citoyens du monde. Et que donc, si vous voulez, en théorie, cette capacité transformatrice de vous donner le pouvoir, en fait, d'agir comme citoyenne, comme citoyen, normalement, ça doit être un des rôles de l'information. C'est ça. Alors après, vous allez me dire, oui, mais vous voyez, on constate que c'est pas tout à fait le cas, bien sûr. Mais l'utilité, c'est ça. L'utilité, c'est pour ça que la nature, la forme du récit importe. Le but de tout ça, c'est de quand même tisser du commun, pardon de le dire comme ça, entre ce qui peut se passer à 1500 km d'ici, et on se parle aujourd'hui, on est maintenant à presque 2 mois de l'attaque russe sur l'Ukraine, donc c'est de tisser du commun entre ce qui se passe à 1500 km d'ici et ce que nous vivons dans ce bureau. C'est-à-dire, c'est pas que ça vous intéresse, au sens, y a un truc qui m'intéresse, c'est que, quelque part, ça vous importe. Mmh. Ça n'est pas sans importance. Ça a un sens, une signification dans ce qui nous rapproche. Donc oui, je pense que le journalisme, ça sert à ça. Et que les grands récits documentaires ou autres, ça sert à ça. Et que les grands récits imaginaires servent aussi à ça. C'est-à-dire que les grands récits imaginaires poussent quand même à quelque part, créer un imaginaire commun. Et dans un moment où tout se fragmente, et on pourrait se dire c'est pas très grave, mais que cette fragmentation se traduit souvent en opposition entre les moments et les morceaux fragmentés, c'est pas sans importance.
Pour terminer cette interview, Bruno Patino, je vais vous poser la question signature du podcast. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui aux jeunes qui se cherchent peut-être, qui n'ont peut-être pas cette faculté comme vous avez eu de faire confiance, entière confiance en la vie, mais qui au contraire essaient de se cantonner à des plans bien précis sans pour autant savoir précisément ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ?
Ouais, je suis pas en position, mais la seule chose que je leur dis quand ce sont mes élèves, c'est de ne pas avoir peur du tâtonnement. Les circonstances sont compliquées, il faut vivre, il faut gagner sa vie, on est bien d'accord. Mais un, ne pas avoir peur du tâtonnement, deux, toujours exercer sa liberté, très fortement. Voilà, après, moi, j'ai pas de choses à leur apprendre. La nouvelle génération, de toute façon, elle va être aux commandes et c'est très bien comme ça. Et elle a pas besoin des conseils de l'ancienne, de toute façon, comme pour ma génération, les conseils de l'ancienne sont inopérants. C'est plutôt foncer, quoi. Ayez confiance. Foncer.
Vous disiez exercer sa liberté, c'est quoi pour vous être libre ?
Dans chaque situation, essayer de se mettre en position de choisir le plus fortement possible et d'un choix qui porte à la fois en conscience son intérêt propre et l'intérêt collectif. Voilà. Et bon, je pense que ça, c'est compréhensible.
Bien sûr. Merci beaucoup, Bruno Patino, pour tous ces partages.
Merci bien.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Œil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.